abordait. Et puis, ça a vraiment touché mon cœur, là. Et puis, ça déborde encore. Puis, je pense que les Écritures débordent encore de beaucoup de choses à ce sujet-là que j'avais pas nécessairement vu cette semaine. Et puis, mon thème. Et puis, j'ai à cœur de peut-être l'apporter ici, éventuellement, soit le matin, soit le soir, je sais pas encore quand. Mais c'est le royaume des cieux. Tout ce qui comporte Jésus quand il annonçait la bonne nouvelle, ça dit dans les évangiles, c'était la bonne nouvelle de quoi? Du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Alors, il y a vraiment des choses importantes à tirer de là. Et puis, plusieurs paraboles, le sermon sur la montagne, beaucoup de choses qui concernent le royaume. Et puis, je pensais aussi de façon un peu étirée, juste que dans l'Ancienne Alliance, puis les histoires du passé aussi, comment est-ce que tous les des éléments pointent aussi vers un seul personnage qui est Jésus, comment est-ce qu'il vient apporter justement tout l'accomplissement du royaume qui sera éventuellement aussi terrestre dans la personne de Jésus, bien comment est-ce que les Juifs, comment est-ce que le peuple s'attend à un royaume, s'attend à un pays qui s'attendait à un roi, un juge, un libérateur, bref, tout cela est accompli dans la personne de Jésus. Et puis, juste pour vous donner les sous-thèmes que j'ai abordés, je ne les prêcherai pas, là. Mais le royaume des cieux, on a vu ensemble le roi, on a vu les sujets du roi, c'est-à-dire nous, la bataille qu'il y a avec le royaume, le règne qui nous est accordé, si je peux dire aussi, avec le roi, la mission du royaume. Et puis, on a échappé le punch parce que je pensais que je devais prêcher samedi matin, je devais faire le retour du roi. Puis finalement, ben, je prêchais pas dimanche, samedi matin. Fait que je vais vous le garder pour vous en exclusivité. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes, en tout cas que je constatais sur ça. C'était mon partage pour ce soir suite au partage qu'on avait ce soir là. Et puis ça a particulièrement touché mon cœur. Et puis, si on revient dans les juges dans notre série qu'on avait commencé la dernière fois, on avait parlé d'une autre période dont on avait parlé, on avait intitulé ça le triste refrain. Il y a des refrains dans des chants qu'on aime chanter qui sont très joyeux, puis malheureusement dans les juges, il y a un triste refrain et qu'on doit prendre pour nos propres vies comme exemple à ne pas faire. Alors on peut prendre exemple des mauvais coups que les autres ont fait, particulièrement je pense que les Écritures sont là pour notre instruction, pour notre enseignement, puis pour qu'on prenne exemple de ces gens-là et reproduire ou ne pas reproduire ces événements-là. Et on était arrêté à Juges 10. Vous pouvez revenir là. Ce soir, ce vers quoi je veux, avoir comme sous-thème ou comme thème récurrent qui va revenir quand même à travers le juge, c'est « Où est Dieu? » Où est Dieu? Des fois, on peut avoir des situations dans nos vies où ce qu'on se pose cette question-là, Dieu, t'es où? Comme l'histoire des pas sur la plage, là. Par exemple, dans les épreuves, on pourrait dire à Dieu, Dieu, t'étais où dans cette période-là? Ou dans les tribulations, bien évidemment, si les tribulations sont là à cause de notre foi, bien, on pourrait citer l'exemple d'Étienne. Étienne, est-ce qu'il savait où est-ce qu'il était Dieu? Il regardait au ciel, puis il le voyait. Il savait qu'il était là. À travers ses tribulations, son affliction, il n'a pas baissé les yeux puis la tête, puis en disant « Dieu m'a oublié, finalement, je suis en train d'être lapidé. » Mais au contraire, il a levé la tête, puis il a vu Dieu. Dieu était là. Et avec le peuple d'Israël, avec les juges, Dieu était là aussi. J'aimerais vous inviter à tourner, juste avant, je vous ai fait tourner dans le juge, vous pouvez quand même mettre votre signe là. Puis peut-être juste terminer dans, pas terminer, mais commencer avec Habacuc, le chapitre 1. On a des personnages, tantôt Justin partageait que David parlait avec son cœur et David pouvait avoir cette expression-là aussi de son cœur avec Dieu quand ça allait difficilement dans sa vie. Il pouvait l'exprimer à Dieu, puis on voit quand même la suite des psaumes où ce que David se tournait vers Dieu. Et Habacuc était un de ces prophètes qui, tout au début, on prêchera pas sur Habacuc, là. Faut comprendre quand même qu'il y a une suite au livre d'Habacuc, puis une discussion avec Dieu et Habacuc. Mais si vous l'avez trouvé, on va lire les versets 2, 3 et 4. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » La réponse de Dieu s'en vient dans la suite, tout de suite après, à partir du verset 5, il y a une suite, et puis au verset 2, au chapitre 2, Habacuc continue de répondre, mais je vais juste commencer par ça, avec un prophète qui expose son cœur devant Dieu, puis qui lui dit, « Dieu, t'es où? » On dirait que le péché abonde, on dirait que la loi, on dirait qu'elle a point, il dit, « La loi n'a tel point de vie, la justice point de force, il y a l'oppression, il y a la violence qui sont devant moi, il y a les querelles, la discorde s'élève, et puis le méchant triomphe du juste, et on rend des jugements iniques. Jusqu'à quand, éternel? » J'ai crié, tu n'écoutes pas. Dieu est là, Dieu y écoute, Dieu y est présent. Et malheureusement, évidemment, c'est des situations, par exemple, si on recule dans les juges, où le peuple a péché, effectivement, Dieu châtie son peuple, place son peuple dans une situation où ce qu'ils vont n'auront pas d'autre choix que de retourner à Dieu puis de crier à lui. Bien, ils vont souffrir quand même pendant un temps ce châtiment-là que Dieu leur donne, que de juste, le fait d'enlever sa main, disons, bénissante sur son peuple, le fait que Dieu utilise même un autre peuple pour aller vers Israël, ben ça expose le fait que le peuple pouvait avoir ce sentiment-là, comme pour Gédéon qu'on avait déjà parlé. Où est Dieu? Mais Dieu y est là. Et dans le cas des juges, Dieu était présent. Et on s'était laissé dans Juges 10, si vous voulez y revenir, où le peuple, après plusieurs années, ont été oppressés par les... par un peuple, voyons, je viens de perdre le nom du peuple, là. Les Ammonites, à partir du verset 6 dans Juges 10, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel, ne le servirent plus. Plus la colère de l'Éternel s'est enflammée. » Et puis, contre Israël, et les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. J'aimerais qu'on prenne un temps, un mot de prière, que Dieu nous conduise dans sa parole, et après ça, on va faire la suite dans Juges 11 avec Jephté qui s'en vient, le Galaadite. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. On croit, Seigneur, que tu es là, que tu es présent dans nos vies, que tu t'occupes de nous. Et que, comme on disait la dernière fois, quand tu nous châties, c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu veux qu'on s'accroche à toi, qu'on se tourne vers toi. Seigneur, on te prie que ce soir, ta parole nous parle à travers l'histoire de Jephté. Qu'on puisse prendre exemple de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à éviter. Seigneur, on veut voir ta main, on veut voir ta grandeur, ta puissance à travers tes Écritures pour qu'on puisse te connaître et en même temps s'attacher de plus en plus à toi. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. J'aimerais qu'on revienne au verset 9. On va juste lire 2-3 versets dans Juges 10 pour se replacer dans le contexte un peu de ce qui s'était passé. Verset 9 du chapitre 10, « Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. » Alors, il y avait de l'oppression particulièrement de l'autre côté du Jourdain, où il y avait les Ammonites. Mais l'oppression était tellement grande qu'elle avait franchi le Jourdain. Et puis pour combattre Juda, Benjamin, qui est un peu plus au sud, avec Éphraïm aussi, alors l'étendue de l'oppression s'en venait grande. Et il s'est passé plusieurs années. Verset 15, on va sauter au verset 15 pour finir jusqu'à 18. « Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Le peuple reconnaissait qu'il n'avait d'autre salut qu'en Dieu, qu'en l'Éternel exclusivement. Et même si Dieu leur a dit, « Ben allez après vos idoles, là, puis eux ils vont vous délivrer. » Mais ils reviennent quand même à l'Éternel en disant, « Il y a de salut en aucun autre que Dieu. » Parce que l'Éternel, parce que même si Dieu leur a dit ça, ils comprennent bien maintenant un point où ils en sont, c'est à Dieu qu'ils doivent crier. Verset 16, la repentance, la vraie repentance, elle s'est manifestée concrètement. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel et fut touché des maux d'Israël. Dieu a vu leurs actions, a vu leur cœur. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple et les chefs de Galaad se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. » On arrive à l'histoire de Jephté. J'aimerais, un volontaire qui voudrait me lire le verset 1 à 11 des juges, avec le début de l'histoire de Jephté. Un volontaire? Ok, René. OK, merci. On a un nouveau juge suite à une situation où le peuple a besoin de l'Éternel. Le peuple s'est tourné vers lui. Et là, ce nouveau juge-là s'appelle Jephté. Première question que je vous pose, si vous voulez répondre en levant la main, qu'est-ce qu'on apprend de Jephté? Son passé, sa personne, sa réputation. Qu'est-ce que l'on apprend de Jephté? Le fils d'une prostituée. OK. Alors, on ne connaît pas nécessairement le nom de sa mère, mais on sait qu'il est venu d'une prostituée. Quoi d'autre? Oui. Un vaillant héros. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté au début. Jephté, le Galaadite, était un vaillant héros. Probablement une déclaration générale connaissant toute l'histoire qu'elle a englobée, parce qu'au moment, au tout début qu'on le prend, c'est peut-être pas nécessairement un héros au sens que l'on comprend, mais il devient. Mais du moins, c'est ça, c'est un vaillant héros, un homme qui a probablement beaucoup de courage et qui va se transformer ce courage-là en héros de foi, en vaillant héros pour l'Éternel. Quoi d'autre aussi? Oui, c'est là. Un homme rejeté par sa naissance. Qui était le père de Jephté? Le père de Jephté, c'est ça? Galaad. Et puis, il y a eu combien de femmes? Une seule femme. Galaad a eu une seule femme, sauf que Jephté vient d'une prostituée. Et regardez verset 1. Jephté, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent: « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Alors, il y avait vraiment une division qui s'était établie, une division évidente, puisqu'il y avait une seule femme avec Galaad, et Jephté venait d'une prostituée. Alors, comme on disait, Jephté, dès très tôt, a été rejeté par ses frères, a été renvoyé. Puis ses frères disaient: « Ben, parce que tu viens d'une femme prostituée, t'hériteras pas avec nous de la maison de notre père. » Et puis ils l'ont rejeté. Jephté s'est retrouvé seul pendant un temps. On ne sait pas nécessairement le temps, combien de temps, mais il s'est enfui, verset 3, loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Alors, on imagine bien que Jephté recherchait peu la communion de ses frères. Il est parti loin. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il était à ce moment-là? Il est parti dans le pays de Tob, au nord-est du pays, de l'autre côté du Jourdain, s'est éloigné. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Qui étaient ses amis? Des bandits, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté. Qui d'autre avait aussi des gens de rien qui s'étaient attachés après un vaillant héros? Hein, comment? David, exactement, pendant ce temps-là. Et alors, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté. Ils faisaient avec lui des coups de main. Alors, ils rendaient des coups de main. On s'imagine bien que c'était pas des coups de main pour aider, là, mais peut-être pour détruire. Mais du moins, c'était un vaillant héros, un homme rejeté. C'est l'arrière-plan que l'on a de notre juge actuellement, rejeté de par ses frères, des gens de rien qui sont rassemblés auprès de lui. Et puis, mais il semble avoir une réputation, Jephté quand même, d'un homme qui a de l'air d'avoir une main forte, un homme qui, ce qu'il fait, réussit, puisque ses frères se tournent vers lui. On a parlé qu'il était rejeté par ses demi-frères, il erre à Tob, il est suivi par des gens de rien pour faire des coups de main, et puis finalement, au verset 5, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allaient chercher Jephté au pays de Tob. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'était quoi la demande? D'être leur chef. Sois notre chef. C'était la question qu'on s'était laissée au chapitre 10. Les anciens se disaient: qui va être notre chef? Qui on va placer à notre tête? Et puis finalement, ils ont pensé à Jephté. Probablement, comme je disais tantôt, à cause de sa réputation, de ce qu'il laissait, de ses coups qu'il réussissait probablement bien. Et puis, alors, les anciens de Galaad sont allés voir Jephté. Et puis, ils ont fait une entente ensemble. Combat pour nous, puis tu seras notre chef. Et puis, ils ont placé ça devant Dieu, puis ils ont pris une entente pour dire: Jephté, maintenant, va devenir notre guerrier, notre libérateur. OK, il y a une autre personne qui voudrait lire les versets 12 à 28. C'est des textes historiques, hein? Il faut lire plusieurs versets pour voir la suite. Mais un volontaire qui voudrait lire 12 à 28. OK, Maria dit. OK, merci. C'est une longue section, mais qui explique déjà un premier pas de Jephté face à l'adversaire, face à l'ennemi. Qu'est-ce que Jephté tente de faire? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il cherche à éviter la guerre, à éviter des morts. Et puis, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? On voit au verset 12, Jephté envoyait des messagers au roi Fidir d'Amon, au fils d'Amon, pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? » Pourquoi tu viens nous faire la guerre? Jephté, il veut comprendre. Avant de se lancer contre l'ennemi, il veut comprendre les motivations de l'ennemi à venir l'attaquer. Et qu'est-ce que le roi des fils d'Amon répond? Quelle était sa réponse? « Vous avez pris possession de notre pays. » À la sortie d'Égypte, ça fait un bail de ça, là. Ça fait longtemps. T'es sur notre territoire, et puis là, maintenant, ben, on veut leur prendre en possession. Et puis là, tout à coup, verset 18, puis il marcha par le désert, tournant le pays des Édomites, le pays de Moab, et puis il vint de l'Orient, du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Et puis là, verset 20, qui est vraiment le verset clé, « Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jaha et combattit Israël. » Alors, non seulement ils ont dit non, mais en plus, ils ont décidé de l'attaquer. Ils ont décidé de l'attaquer sans aucune raison. Et puis finalement, verset 21, ben, il dit, « Mais l'Éternel les a livrés entre nos mains. L'Éternel a livré le pays entre nos mains et puis on en a pris possession selon les lois de la guerre, si on peut dire ça comme ça. On a gagné la guerre, on a gardé le pays et puis vous avez perdu le pays. Et puis, Jephthé renvoie ça à l'inverse. Si vous, selon vos idoles, si selon votre Dieu, verset 24, Kémosh, te donne un pays à posséder, ben, tu vas le posséder, tu vas le garder, tu vas le prendre. Alors, il est en train de dire, nous, notre Dieu, l'Éternel, nous a donné ce pays-là. Et puis, ça fait longtemps de ça. Ça fait 300 ans. Et puis là, maintenant, tu dis, on le veut. Pourquoi tu l'aurais pas réclamé avant? Jephthé tente à parler avec l'armée adverse. Tente de négocier, tente de voir quels sont ses motifs. Mais la dernière déclaration que je veux qu'on porte notre attention, quelle est la dernière déclaration que Jephthé fait aux Ammonites? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 27. Je ne t'ai point offensé, tu agis mal envers moi. Et puis, qu'est-ce que tu as dit, Marie-Dieu? C'est l'Éternel qui sera juge. Entre toi et moi, c'est Dieu qui va juger. Jephthé est un homme qui, par cette déclaration-là, on voit quelle importance il accorde à Dieu. Comment est-ce qu'il voit que lui-même, même dans sa propre vie, regardez le verset 10, avec les anciens de Galaad et lui-même, il dit la même chose. Les anciens de Galaad dire à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge. Les anciens de Galaad avaient fait cette déclaration. Si nous ne faisons pas ce que tu dis, on va placer Dieu qui sera juge entre nous. Même chose pour Jephthé qui se retrouve devant les Ammonites. Je ne t'ai point offensé. Tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Jephthé qui, dans cette histoire de juge, reconnaît bien que c'est l'Éternel qui est le juge, que c'est lui qui a le dernier mot. Il reconnaît bien que c'est la main de Dieu qui va décider toute chose et qui sera fait devant lui aussi. Jephthé est parti de rien, un homme rejeté de par ses frères qui faisait des coups de main avec des gens de rien et puis il est maintenant à la tête d'un peuple et qui cherche à réconcilier, à du moins à connaître les motivations, cherche à négocier pour voir tu agis mal, mais maintenant tu restes sur tes positions. Verset 28, le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles de Jephthé que Jephthé lui fit dire. Alors là, on va voir qu'est-ce que Jephthé va se produire à faire. Verset 29 à 33. Un volontaire qui voudrait lire ça? 29 à 33. David. OK. Jephthé se met en marche. Il est à la tête du peuple. Il est le chef, un galadite et un homme qui a été rejeté, qui est maintenant à la tête du peuple. Et puis là, il part. Comment est-ce que l'Éternel montre son appui devant Jephthé, avec Jephthé? Comment est-ce que Dieu montre au peuple? Ou comment est-ce que Dieu montre qu'il est avec lui? Il a donné une écrasante victoire, certainement. Depuis plusieurs années qu'il y a eu de l'oppression, qu'il y a eu de l'esclavage face aux Ammonites, il y a eu une écrasante victoire, exactement. C'était quoi l'issue de la bataille? Verset 32, Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. C'est qui donne la victoire? C'est l'Éternel, c'est Dieu qui donne la victoire. Quand on a des choses dans nos vies qu'on n'a pas la victoire, c'est qui va donner la victoire dans nos vies quand on en a besoin? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Et Jephthé a marché contre les fils d'Ammon, mais Dieu a donné la victoire. Puis verset 33, il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusque vers Minit. Alors, sur tout l'espace que les Ammonites contrôlait, mais maintenant les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël parce que Dieu leur a donné la victoire, parce que Dieu les a écrasés. Et verset 30, 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Et puis a traversé Manassé. Dieu a accompagné Jephté. Dieu était au devant de la bataille. Il était devant. Et certainement que Dieu a montré qu'il montrait son appui à Jephté, du moins en l'accompagnant, en étant avec lui. Et sans Dieu, sans l'Esprit de l'Éternel, sans Dieu qui était au devant d'eux, certainement que les années se seraient prolongées encore dans leur oppression avec le peuple. Mais maintenant, c'est Dieu qui leur donne la victoire. Le libérateur Jephté les a conduits justement à la victoire. Mais Jephté a fait un vœu. Et là, on ne peut pas passer par-dessus. C'est quoi son vœu? Qu'est-ce qu'il dit? Avant d'aller à la bataille, il fait un vœu à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? OK, le premier Dieu. Si, verset 30. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira de mes portes, de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephté est en train de faire un vœu à l'Éternel qui, je pense, était à ce moment-là insensé. Pourquoi? Il a mis l'esprit de côté, du moins qu'il n'était pas rempli de sagesse à ce moment-là, parce que c'était évidemment clair, selon la loi de Moïse, qu'il n'y aurait pas de sacrifice humain. Alors, est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont été consacrés à l'Éternel? Ben oui. Il y a des enfants qui ont été donnés à Dieu pour servir. Élie en est un exemple. Et Samuel est un exemple des gens qui ont été consacrés à l'Éternel. Mais là, il y a cette phrase-là qui tu dis... Qu'est-ce que vous lui dites par là? Et je l'offrirai en holocauste. Jephté a marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés. Mais il a fait un vœu à l'Éternel qui s'est retourné contre lui finalement. Puisqu'on va lire la suite des versets 34 à 40. On va discuter un peu plus de ça un peu plus tard, de cette idée de faire des vœux à Dieu dans les applications. Mais on va quand même continuer. On voit Jephté qui fait un vœu qui semble insensé. Et qui est insensé? Par le fait qu'il dit qu'on va l'offrir en holocauste. Quelqu'un qui voudrait lire les versets 34 à 40. OK, c'est l'une. OK. Jephté fait un vœu insensé de sacrifice humain à Dieu. Dieu n'agrée pas les sacrifices humains, comme on disait. On pourrait lire, par exemple, Deutéronome 12. Contrairement à Chemosh, qui était l'idole de ces Ammonites-là, il y avait plusieurs nations autour qui, eux, avaient dans leur coutume, dans leur façon d'adorer leurs idoles, d'offrir des sacrifices humains, d'offrir leurs fils, par exemple. Et c'était pas du tout la volonté de Dieu. Et là, Jephté retourne chez lui, et là, son vœu a été prononcé. Et qui sort de sa maison? Sa fille, son seul enfant, sa seule fille sort devant lui. Qu'est-ce que ça lui a causé comme sentiment? Déception, peut-être que même ça pourrait être plus fort que ça. Il était abattu. Il était abattu. Sa fille sort devant lui pour fêter la victoire, mais Kemosh, en ayant parlé, Jephté, en faisant ce vœu-là à l'Éternel, finalement, ça se retourne vers lui. Et puis, verset 35, « Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et puis je ne puis le révoquer. » Jephté se retrouve finalement, après cette grande victoire-là, pris dans son propre vœu, où est-ce qu'il se trouve face à son vœu et qu'il doit accomplir. J'ai lu différentes interprétations, puisque ça semble un peu difficile à voir quel était son vœu. Il y a l'interprétation justement que la fille, soit qu'elle a été sacrifiée, qui a sacrifié sa fille, qui n'a pu jamais se rendre au jour d'un mariage, par exemple, parce qu'on parle qu'elle n'a pas connu d'homme, puis cette pratique était répandue chez Kemosh. Alors, soit qu'il a réellement sacrifié, ce qui était son vœu, ou soit qu'il a destiné sa fille à une virginité perpétuelle, ce qui est aussi probable puisqu'elle est particulièrement... C'est le sujet qui est particulièrement relevé à la suite de ça, c'est-à-dire qu'elle pleure, elle s'en va pleurer sa virginité. Mais ce qui est un peu plus troublant, c'est comme je disais tantôt, verset 31, la fin de la dernière phrase, « Je l'offrirai en holocauste », qui semble vraiment être un sacrifice de sa propre fille. Avant qu'on parle de vœux, quelle compréhension Jephté avait de sa parole devant Dieu? Pour lui, c'était quoi de dire des mots devant Dieu? Est-ce qu'il pouvait facilement révoquer ça? Quelle compréhension est-ce qu'il en avait? Bien que son vœu avait été mauvais. Il faisait ce qu'il disait. C'était un homme de parole. Comment j'ai entendu quelqu'un en arrière? Parole de non-retour. OK. Jephté, on voit à travers son histoire, justement, avec les anciens de Galaad, que pour lui, quand on prononce les vœux devant Dieu, c'est lui le juge. Quand il entend, Jephté avait cette compréhension-là de vœux qui ne peut pas être révoqué, qui ne peut pas être transformé, et que quand il dit quelque chose devant Dieu, bien qu'il l'accomplit. Regardez, j'aimerais qu'on tourne dans Matthieu. Quelques applications suite à ces vœux-là. Matthieu 5, Jésus a parlé concernant justement les paroles. Vous connaissez probablement ce texte-là, là, sur le Sermon sur la montagne, versets 33 à 37. Un volontaire qui veut lire Matthieu 5, 33 à 37? OK, Richard. OK. Jésus est en train de parler de justement cette idée de jurer. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré. Et Jésus termine avec verset 37, mais que finalement notre parole, que sans jurer, sans faire de serment, sans chercher à tromper par de faux serments, puis de chercher à accomplir, mais finalement de user sagement de nos paroles, et puis que notre oui soit un oui, que notre non soit un non, et d'user sagement de nos paroles, si on peut tirer ça comme application. Et j'aimerais qu'on recule dans Ecclésiaste, le chapitre 5, qui est plus explicite justement sur cette idée-là de faire des vœux devant Dieu. Ecclésiaste, chapitre 5. On va lire les versets 1 à 6. C'est quoi un vœu devant Dieu? C'est quoi faire un vœu à Dieu? Une décision, une promesse, une décision, un engagement devant Dieu, une promesse. Est-ce qu'on est obligé de faire des vœux devant Dieu? Non, on n'est pas obligé de faire un vœu devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, par contre? Bien, qu'on obéisse. et on n'est pas obligé de se lier les mains ou se lier les pieds. Je dis lier si on voit qu'on ne sera pas capable. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on fasse de vœux si évidemment on n'est pas capable de le faire, mais Dieu s'attend de nous, de toute évidence, qu'on soit obéissant. Mais alors on peut faire des vœux à Dieu, mais Dieu n'oblige pas à ce que l'on en fasse. Justin, tu as un commentaire ou une question? Ouais. 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 Et je comprends ce que tu veux dire. Puis en même temps, comme tu dis, le fait de dire à Dieu, sois au-devant de moi, puis moi je m'engage à te suivre. Et ça, c'est bien. Et on voit, si on regarde des juges du passé, les juges du passé se sont contentés de dire, j'y vais avec l'Éternel, il est devant moi, et je le suis, et il m'accompagne, sans qu'ils aient fait de vœux. Dans le cas de Jephté, il semble y avoir des termes plus clair dans le sens qu'il a fait un vœu à l'Éternel et il a fait un engagement. Quelle était sa compréhension d'un vœu? Quelle était son intention? Je pense que je veux pas trop donner d'éléments sur ça parce qu'on n'en a pas nécessairement beaucoup, mais ça me donne l'impression que Jephté a voulu tordre un peu, a voulu se donner une main forte sur Dieu en disant « Fais ça, puis je vais t'offrir... » Oui. 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 Et je pense que ça, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le dise. Et je pense qu'il faut user de sagesse dans les paroles qu'on emploie aussi avec Dieu, dans les termes qu'on emploie. De toute évidence, Jephté en disant « J'offrirai à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste », il n'a probablement pas réfléchi à ce dernier bout de phrase-là. Puisque s'il avait eu consciemment la loi de l'Éternel en mémoire, il aurait très bien compris que tu fais pas ce vœu-là devant Dieu. On fait pas de marché avec Dieu. Je peux pas faire un vœu à Dieu qui va à l'encontre de sa volonté. Je peux pas faire un vœu à l'encontre de sa volonté. Évidemment, si je fais un vœu à Dieu, c'est quelque chose qui va dans ce qu'il désire, dans ce qui va lui plaire, dans ce que Dieu va agréer. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut être précis dans les termes. Mais je comprends très bien ce que tu dis. Puis je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire de vœux. Je pense que quand on en fait puis qu'on l'honore, ça plaît à Dieu. Quand on n'en fait pas puis qu'on le fait pas, ben on l'a pas fait de vœux à Dieu. On n'a pas fait de promesses. On va le voir dans l'Ecclésiaste. J'avais vu une main levée, je pense, René. Oui. C'est ça. Ouais. Son propre peuple avait été déconnecté pendant une bonne période aussi de la loi, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis pour Jephté, on voit au moment de son vœu, c'était pas nécessairement sa fille qu'il avait en tête. Puisqu'il a vraiment été consterné quand il a vu sa fille arriver. Il aurait préféré peut-être sa servante. Celui qui lave les pieds, là, c'est ça aurait été moins. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. 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 C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Richard, t'avais levé la main? Ça a répondu? OK. Mais Justin, j'accueille ce que tu dis, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire de vœux, mais le point que je suis en train de dire, c'est que si on en fait, comprenons bien et prenons le temps de considérer les paroles qu'on va placer devant Dieu pour que Dieu, évidemment, l'accueille positivement et que je considère aussi les pas que j'ai à faire et que je sais que oui, je peux m'engager jusqu'à la fin à le faire et puis pour l'accomplir. Puis que si je vois que ce n'est pas selon la volonté de Dieu ou que je ne serais pas capable de l'accomplir, mais que je ne prononce pas des vœux en l'air comme ça pour finalement soit tordre la main de Dieu, soit forcer la main de Dieu, ou soit finalement parce que je n'ai pas considéré ce que Dieu dit. Bien, Ecclésiaste 5 va éclaircir différents éléments sur ça, les versets 1 à 6. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne s'hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alors, beaucoup d'éléments qui sont donnés sur le vœu, mais on doit veiller sur nos paroles. On doit veiller aux vœux que l'on dit à Dieu. Et il y a un proverbe qui dit « Celui qui parle peu, pêche peu ». Salomon est en train de dire un peu cette même idée-là, que nos paroles, c'est important, que ce qu'on va prononcer devant Dieu, et ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Jephté a fait un vœu, il est présentement abattu devant Dieu, puisque sa fille, elle est le sujet maintenant de son vœu. Sa fille lui demande, ben, avant d'accomplir ton vœu, laisse-moi aller 2 mois dans les montagnes pour que je puisse pleurer avec mes compagnes. Et puis, après ça, tu accompliras ton vœu. Et de là est née la coutume, verset 39, au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Il n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, le Galaadite, 4 jours par année. Jephté, un homme rejeté, est maintenant rappelé pour être le chef. Jephté, qui a cherché à parler avec l'ennemi avant d'attaquer, qui a agi sagement et qui est maintenant placé dans une situation qui va attaquer. Que Dieu est avec lui, l'Esprit de l'Éternel le revêtu. Il est parti. Dieu leur a donné une grande victoire avec Jephté à leur tête. Et maintenant, on voit la fin quand même que Jephté est abattu à cause de ces paroles qu'il avait dites. Et j'aimerais qu'on termine avec les sept versets du chapitre 12, juste pour terminer cette section-là, avant qu'on passe à un autre juge. Un volontaire qui voudrait lire les versets 1 à 7, qui fait la conclusion, si je peux dire, de la victoire qu'il y a eu avec Israël, avec les Ammonites. Chapitre 12, versets 1 à 7. OK, René? Une guerre éclate au milieu d'Israël, entre Éphraïm et puis la maison de Galaad, et particulièrement Jephté, parce que les gens d'Éphraïm ne comprennent pas pourquoi est-ce que Jephté est parti tout seul comme ça à la guerre. C'est drôle, ça fait penser à l'histoire justement qu'il y a eu avec Gédéon, la même histoire que les Éphraïmites encore arrivent, viennent voir Gédéon, puis là, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as pas inclus dans la bataille. On aimerait ça, nous autres aussi, avoir les honneurs de la guerre, mais t'es même pas venu vers nous pour nous inclure. Et puis là, Jephté, il dit, non, j'ai dit, moi, je suis allé négocier, puis je suis allé demander votre aide, puis vous êtes pas venu m'aider. J'ai exposé ma vie, vous avez rien fait. Maintenant, je m'en vais à la guerre, puis vous arrivez après la guerre, puis vous voulez des honneurs, puis en plus, vous venez avec vos torches, puis vous voulez incendier ma maison. Parce que je vous ai pas inclus, et là, une guerre éclate au sein d'Israël. Malheureusement, certainement à cause encore du cœur de l'homme qui cherche à s'attirer des honneurs sans avoir vu encore la main de Dieu, que c'est Dieu qui leur a donné la victoire. C'est pas à Jephté qui va l'honneur, certainement qu'il est un vaillant héros, qu'il est un homme qui a conduit son peuple à la victoire, mais le texte est clair que c'est Dieu qui a donné la victoire, c'est Dieu qui a donné une écrasante victoire, et Éphraïm, certainement qu'il est jaloux, pris de différentes émotions, qui le pousse à vouloir incendier Jephté et puis sa maison. Et à un point où ce que finalement il y a une guerre qui existe, où ce que 42 000 personnes qui meurent suite à la guerre, et puis sur un jeu de mots, on est capable de déceler les trompeurs à cause qu'ils peuvent pas bien prononcer Chibolette. Je me serais peut-être fait égorger moi aussi. Mais alors il disait Cibolette. Bref, une guerre éclate entre les frères, entre le peuple d'Israël, et certainement que c'est un événement triste encore de l'histoire d'Israël. Déjà après la victoire, le péché revient, des morts apparaissent, et suite à cette grande guerre-là. J'aimerais vous poser quelques questions, du moins d'application pour nos propres vies. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu, de son caractère, sa volonté à travers cet épisode d'Israël-là? Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu? Qui est Dieu? Comment est-ce qu'il s'est révélé à travers cette histoire-là? Comment découvrir Dieu à travers ça? C'est pas juste un texte historique où ce qu'on raconte une histoire puis que finalement on n'a rien appris sur Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans cette histoire-là? Oui. C'est sur lui qu'on doit s'appuyer dans la bataille. Dans chacune de nos vies, on a certainement des batailles, des combats. C'est sur lui qu'on doit s'appuyer. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu aussi? De s'attendre à lui. S'attendre à sa délivrance. Oui. Est-ce que c'était la volonté de Dieu, tout ce qui se passait là? Est-ce que c'était ça qu'il désirait pour son peuple? Non. Il désirait certainement la paix pour son peuple, qui vit malheureusement la guerre à cause du péché. Dieu est présent. Le peuple aurait pu se poser la question, il est où Dieu? Où est Dieu à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on est dans l'esclavage? Dieu était présent. Dieu, certainement qu'il était attristé. Puis on voyait dans le chapitre 10 que Dieu a été touché des mots de son peuple. Même après discussion, qui disait, tournez-vous vers vos idoles, puis allez les servir, puis eux vont vous délivrer. Dieu a vu son peuple qui s'est repenti, puis a été touché. Et puis Dieu les a délivrés encore une fois. Sa miséricorde était encore présente. La miséricorde de Dieu sur son peuple qui péchait encore en abondance. Mais la grâce de Dieu et sa miséricorde était pas à son terme. Qu'est-ce que cela m'enseigne à moi? Qu'est-ce que ça m'enseigne à faire ou à ne pas faire? Je disais que Dieu est là. Dieu a manifesté certainement sa présence dans la victoire. Dieu a manifesté sa présence. Et ça dit l'Esprit était sur Jephté. Je pense qu'on a beaucoup plus que ça. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est avec nous en permanence. Qu'est-ce que j'apprends de ce texte-là à faire ou à ne pas faire? Comment est-ce que je peux compter sur cette puissance-là, la puissance de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans ma vie pour continuer d'avancer? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ouais. À placer Dieu en avant, certainement. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire? T'as-tu vu la main, David? Ou... Non? OK. Oui, Karen. Ouais, certainement. De se souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Puis ça va nous aider aussi à persévérer, à continuer d'avancer. Dieu avait accordé la victoire à plusieurs reprises. Et puis, il n'est pas trop tard pour se repentir. Oui, Danny. Ouais. Avec un manque de connaissance de la parole de Dieu, de notre Dieu. Ouais, oser. Certainement qu'on manque de connaissances, et que si on manque de connaissances, qu'on parle, ou à cause qu'on a agi de façon insensée par notre bouche, mais ça peut se tourner contre nous. De considérer les paroles que l'on dit devant Dieu, la connaissance que l'on a de notre Dieu, qui va nous éviter de périr, qui va nous éviter de se tirer nous-mêmes dans le pied. Oui, René. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui. 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 C'est ça. Oui. Même avec nos bonnes intentions, si ce n'est pas selon sa volonté, ça ne lui plaira pas. Certainement, on a besoin de cette connaissance-là de notre Dieu, sa connaissance de sa parole, qu'on peut la mettre en pratique aussi. Comme je disais tantôt, l'Esprit est en nous. On a ce immense privilège que d'avoir l'Esprit qui est même plus que sur nous, qui est en nous, qui est avec nous continuellement. Et Jephté a fait quelque chose de miraculeux pour son peuple, d'avoir conduit son peuple à une grande délivrance. Évidemment, c'est Dieu qui faisait ce miracle-là. Mais on a la présence de Dieu dans nos vies, où est-ce qu'on a cette occasion-là de livrer bataille avec lui continuellement sur le péché dans nos vies. Continuellement, quelle est la bataille que l'on peut avoir? Dieu est avec nous, puis Dieu nous accompagne. Dieu est présent, Dieu ne nous a pas abandonnés. On voit la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Puis on a besoin de persévérer, on a besoin de connaissances. On peut continuellement se tourner vers Dieu et de croire que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous abandonne, que Dieu ne veut pas de nous parce qu'on est digne, c'est du mensonge. Certainement que Dieu continue de nous tendre la main et qu'il veut nous accorder la victoire puis marcher avec nous encore. OK, je vais terminer par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer encore. C'est des textes, Seigneur, quand on les lit, on réalise, Seigneur, des choses bonnes, des choses très bonnes que tu fais. On réalise des moins bons coups aussi que certains hommes, certaines femmes auraient pu faire. Et Seigneur, on veut agir sagement avec ce que tu nous donnes. On veut plonger les regards dans ta parole et puis comme un miroir, puis regarder ce que l'on a à changer dans nos vies. Parle à chacun d'entre nous, Seigneur, que ton esprit mette le doigt dans nos vies exactement là où on a besoin de se placer devant toi, où est-ce qu'on a besoin de reconsidérer nos actions, où est-ce qu'on a besoin de se repentir. Donne-nous de la sagesse, certainement, Seigneur, qu'on est nous aussi influencés par un monde qui a toutes sortes de valeurs, toutes sortes d'enseignements tordus qui ne te plaisent pas. Et garde-nous, Seigneur, près de toi dans la vérité. Garde-nous, Seigneur, qu'on puisse toujours marcher dans la vérité. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen.